Purification, péché et le péché qui mène à la mort. Le processus de purification, Jean décrit la lumière, qui est le Christ, comment son sang nous purifie de tout péché. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Dans les versets qui suivent immédiatement, Jean explique comment le sang du Christ nous purifie de tout péché. Il a dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché lorsqu'il nous reprend, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Nous commençons comme des pécheurs, avant d'être purifiés. Si nous ne nions pas nos péchés lorsqu'il nous reprend, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. Toute injustice est péché. 1 Jean 5, 17. Si nous disons que nous n'avons pas péché lorsqu'il nous reprend, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean 1, 8, 10, 5, 17. Lorsque vous examinez ces versets à la lumière de ceux qui les précèdent et les suivent, voici le sens. Par la foi au nom de Jésus, nous allons à la lumière Jésus dans un humble silence pour attendre, écouter et veiller, espérant la purification par son sang et sa grâce. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons, nous n'avons pas d'humilité et nous ne recevons aucune aide, la vérité n'est pas en nous. Si lorsqu'il la lumière, le Christ nous montre nos péchés, nous les reconnaissons, il nous pardonnera et nous purifiera de ce péché. Mais si, lorsqu'il la lumière, le Christ nous montre nos péchés, nous disons que nous n'avons pas péché de ce qu'il nous a montré, pensant qu'il n'est pas la vérité, pensant que celui que nous entendons est un menteur, nous ne recevons aucune aide de lui, et sa parole ne parvient pas à être plantée dans notre cœur, de sorte qu'elle puisse nous gouverner à l'avenir. Ainsi nous avons rejeté le Christ comme un menteur, et nous avons manifesté notre haine pour lui, Jean 3, 19, 20. Mais si nous acceptons sa conviction comme vraie, il nous pardonne, nous purifie du péché, et sa parole demeure dans notre cœur pour nous préserver du péché. C'est ainsi que nous sommes purifiés des péchés jusqu'à ce que nous soyons nets et purifiés. Nous croyons ce que la lumière nous montre, et que la lumière est le Christ. Nous croyons en Jésus au-dedans, la vraie lumière, donnée à tout homme qui vient dans le monde afin qu'il croie. Jean 1, 7, 9. Il ne suffit pas de croire que Jésus est le Fils de Dieu, né d'une vierge et ressuscité d'entre les morts. Nous devons croire que ce qu'il dit est vrai, puis agir en conséquence. La foi sans les œuvres d'une obéissance aimante à Dieu est morte. Jacques 2, 20. Jésus nous a aussi dit de croire en la lumière afin que vous deveniez des enfants de la lumière. Jean 12, 36. Il ne suffit pas de croire qu'il y a une lumière. Nous devons croire que ce que la lumière montre et nous dit est vrai, puis agir en conséquence. C'est par la grâce, par le moyen de la foi, que nous sommes sauvés, délivrés de tous les péchés. En attendant Dieu, nous recevons les enseignements de la grâce, les convictions de la grâce et l'enlèvement du péché par la grâce, aboutissant à notre salut par la grâce. Dans les versets suivants, j'en continue, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est le sacrifice expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et par là nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais quiconque garde sa parole obéit aux commandements du Seigneur qui lui sont adressés, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher comme lui-même a marché. 1 Jean 2, 1, 6. En commençant comme de petits enfants spirituels, si nous obéissons à la parole que nous l'entendons nous dire ou à ce qu'il nous montre dans la lumière, Jésus étant la lumière et la parole, et si nous demeurons en lui, nous sommes de la vérité et nous savons que nous sommes en lui, et l'amour de Dieu est parfait en nous, ce qui nous conduit à marcher comme Jésus a marché, dans l'amour et la vérité. Nous progressons de petits enfants pour devenir de jeunes hommes qui ont vaincu le malin, puis devenir des pères dans la vérité, nous grandissons pour parvenir à l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. F4, 13 Jean continue. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui Jésus est pur. 1 Jean 3, 3 Quiconque commet le péché pratique l'illégalité, car le péché est l'illégalité. 1 Jean 3, 4 Et vous savez qu'il est apparu en nous pour ôter nos péchés, et en lui il n'y a point de péché. 1 Jean 3, 5 Quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a ni vu ni connu. 1 Jean 3, 6 C'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté en nous, afin de détruire en nous les œuvres le péché du diable. 1 Jean 3, 8 Le but du Fils est de détruire le diable et ses œuvres le péché en nous si nous allons à lui. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché car sa semence le Christ demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean 3, 9 Jean répète plus tard, pour insister, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, au contraire Dieu protège celui qui l'a engendré, et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, 18 Et sa semence le Christ, ce sont les paroles qu'il a plantées dans votre cœur, des paroles que vous avez entendues vous être adressées, la parole de Dieu. Luc 8, 15. Les paroles sont greffées dans votre cœur, formant le Christ en vous, jusqu'à ce qu'il soit pleinement formé et ressuscité en vous. Ces paroles que nous l'entendons nous dire sont implantées dans votre cœur, Jacques 1, 21, et ces paroles que nous l'entendons nous dire sont esprit et nous communiquent la vie de Dieu, Jean 6, 63, cette vie de Dieu étant le Christ, Jean 1, 5, 14, 6, de sorte que le Christ est formé en vous, Galates 4, 19. Jusqu'à ce qu'enfin le Christ soit pleinement formé et réellement ressuscité en vous. Col 2, 12, 3, 1 F 2, 6, Rome 6, 13. Vous voyez alors le Christ, la gloire de Dieu, apparaître dans votre cœur et vous êtes témoin qu'il apporte votre salut et la vie éternelle. De la parole du Seigneur au-dedans, nous allons à lui et il fait pleuvoir sur nous son aide. Cet exercice de Dieu purifie bien ceux qui le pratiquent. Les faux prophètes sortent 1 Jean 1, 8 de son contexte. Si nous disons que nous n'avons pas de péché lorsqu'il nous reprend, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et ils disent que cela prouve que personne ne peut jamais être sans péché, en ignorant les affirmations suivantes et le contexte du processus de purification auquel il est fait référence. Pour être purifié, il faut avoir du péché au départ, sinon la purification n'est même pas nécessaire. Jean fait référence au péché qui doit être détruit, non pas porté jusqu'à la tombe. C'est ainsi qu'on mortifie, met à mort les œuvres du corps qui relèvent de la vie terrestre, la fornication, l'impureté, les passions déréglées, les mauvais désirs de la chair et la convoitise qui est l'idolâtrie. Col 3, 5. Qu'est-ce que le péché et quelles en sont les conséquences? Jésus nous a dit ce qui nous souille, car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. Voilà les choses qui souillent un homme. Matthieu 15, 19, 20. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la convoitise, la méchanceté, la tromperie, l'absence de retenue, un mauvais œil, l'envie, le blasphème, l'orgueil et la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le souillent. Marc 7, 20-23 et Jésus nous dit la conséquence d'être souillé, être incapable d'entrer au ciel quand vous mourrez, et il n'entrera en aucune manière rien de souillé. Apoc 21, 27 Paul énonce clairement les conséquences du péché. Mais pour ceux qui sont animés d'ambition égoïste, et n'obéissent pas à la vérité mais obéissent à l'injustice, il y aura indignation et colère, affliction et détresse sur toute âme d'homme qui fait le mal qui pêche, du juif d'abord et aussi du grec, car tous les non-juifs qui continuent de pécher sans la loi périront aussi sans la loi, et tous les juifs qui continuent de pécher sous la loi seront jugés par la loi, car lorsque les païens qui n'ont pas la loi font obéir naturellement les choses prescrites par la loi, eux qui... Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, leurs pensées les accusant ou les excusant à tour de rôle. Tout cela arrive au jour où Dieu jugera les secrets des cœurs des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile. Rome 2, 8, 9, 12, 14, 16. Les œuvres de la nature pécheresse comprennent l'immoralité sexuelle, y compris la fornication et l'adultère, l'impureté, la convoitise, l'idolâtrie, y compris l'avidité, la sorcellerie, la haine, les disputes, y compris les querelles, la jalousie, la colère, l'ambition, les divisions, les factions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, etc. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates 5, 19, 21. Car vous pouvez en être sûr, aucun homme immoral sexuellement, ou impur, ou avide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car c'est à cause de telles choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. F 5, 5. Si ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu, ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les partenaires homosexuels passifs, ni les partenaires homosexuels dominants, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les injurieux, ni les escrocs oppresseurs, cela n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Cor 6, 9, 10. Or, je vous le dis, frères, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 1 Cor 15, 50. La chair et le sang auxquels il fait référence signifie que si vous marchez encore selon vos convoitises et désirs charnels, ne marchant pas selon les impulsions de l'esprit, alors vous ne pouvez pas hériter du royaume de Dieu. Car ceux qui vivent selon la chair s'attachent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'attachent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et même elle ne le peut pas. Ainsi, ceux qui sont dans la chair vivant dans leur nature pécheresse ne peuvent plaire à Dieu. Rome 8, 5, 8. Pour que notre conduite devienne acceptable à Dieu et sans péché, la nature pécheresse et égoïste que nous possédons tous doit être détruite par la grâce du Saint-Esprit. Même si nous devons faire tous nos efforts pour ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas nous livrer à l'immoralité sexuelle, ne pas être ambitieux, ne pas être cupide, ne pas nous mettre en colère, ne pas haïr, ne pas voler, etc. Ce n'est que le commencement. Nous devons voir même les désirs retirés de notre cœur. Car, comme Jésus l'a dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, et quiconque tuera sera passible du jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Matthieu 5:21-22 Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5:27-28 Et ensuite, pour expliquer combien ces péchés dans le cœur sont graves, il nous donne un avertissement saisissant. Si ton œil se fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'une partie de ton corps périsse, plutôt que ton corps tout entier soit jeté en enfer. Et si ta main droite t'est une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'une partie de ton corps périsse, plutôt que ton corps tout entier soit jeté en enfer. Matthieu 5:29-30 Il ne veut pas que nous nous mutilions. Il illustre seulement combien le péché est grave. Jésus cherche désespérément à nous dire que, pour entrer dans le royaume et échapper à l'enfer, le péché n'est pas permis. Point final. Il savait que, après son départ, des faux prophètes avec de faux évangiles promettant la liberté de continuer à pécher se lèveraient. Les changements dans notre cœur, grâce à la croix manquante vers la pureté, peuvent enlever le désir de la main, du pied et de l'œil de nous faire pécher. Vous pouvez donc voir que seul Dieu peut purifier notre cœur du péché. Seule sa puissance surnaturelle peut nous rendre acceptables à Dieu, même nos pensées doivent être changées. Nous ne pouvons pas continuer à traverser cette vie en marchant selon les décisions de notre esprit et nos imaginations. Paul, écrivant à ceux qui avaient été changés par la grâce de Dieu, a écrit « Parmi lesquels nous aussi, nous avons tous autrefois vécu selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées de notre esprit, et nous étions par nature des enfants de colère et l'objet de son indignation, comme le reste de l'humanité. » Éphésiens 2:3 Dieu nous a même dit que marcher selon notre imagination est pire que d'adorer des idoles de pierre et de bois. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes faits Dieu, servant nos motifs et désirs égoïstes, servant notre volonté et non la volonté de Dieu. Parce que vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel, qu'ils ont marché après d'autres dieux, les ont servis et adorés, qu'ils m'ont abandonné et n'ont pas gardé ma loi. Et vous, vous avez fait pire que vos pères, car voici, chacun de vous marche suivant l'imagination de son mauvais cœur, et c'est pourquoi vous ne m'écoutez pas et ne m'obéissez pas. Jer 16:11-12 Car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Gênesis 8:21 Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément mauvais. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve l'esprit, pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses actions œuvres. Jer 17:9 dit « Toute voix d'un homme est droite à ses yeux, mais l'Éternel pèse les cœurs. » Pro 21:2 Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste abandonne ses pensées, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55:7-9 Tous sont impies et injustes jusqu'à ce que l'esprit ait détruit leur nature pécheresse sur la croix intérieure du renoncement à soi, qui détruit l'esprit charnel, égoïste, vain avec ses pensées. L'opération fondamentale de la grâce consiste à nous enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre sobrement, justement et pieusement dans le présent siècle. Tite 2:11-12 J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie qui n'est pas bonne, suivant ses propres pensées. Ésaïe 65:2 Les pensées des injustes sont en abomination infecte, dégoûtante à l'Éternel, mais les paroles des purs sont des paroles agréables. Pro 15:26 Ce verset oppose deux types de personnes, les injustes et les purs, il n'y a pas d'entre deux. Nous ne sommes pas une compagnie convenable pour Dieu tant que nous ne sommes pas purifiés. Il entend toutes nos mauvaises pensées et elle l'attriste. L'Éternel connaît les pensées de l'homme et quelles sont vanités. Psaume 94:11 Notre conduite doit changer, nos mauvaises pensées doivent être détruites par Dieu et nos paroles doivent être fournies par Dieu, non issues de notre cœur et de notre esprit mauvais. Si vous péchez encore, le péché est votre maître et le Seigneur ne peut pas être votre Seigneur ou maître, car comme le Seigneur l'a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. De la parole du Seigneur au-dedans, si tu pèches encore, tu appartiens au péché et non à moi. Ceux qui appartiennent au Christ en ont fini avec le péché. Souviens-toi, toute personne qui pèche le renie comme Seigneur et Maître. Ne vous trompez pas en pensant que vous ne péchez pas, car tant que vous n'êtes pas guidé par la lumière du Seigneur dans chaque parole à dire et chaque acte à accomplir, vous marchez dans les voies du monde, selon le prince de la puissance de l'air, Satan, dans les convoitises de la chair, accomplissant les désirs de votre chair et les pensées de votre esprit, et c'est marcher dans les ténèbres, ce qui est le péché. tant que votre imagination et votre esprit charnel n'ont pas été détruits par le Seigneur et remplacés par la pensée de Christ, vous péchez encore. Nous avons déjà vu que ce qui sort de notre bouche montre comment nos cœurs sont souillés, et Jésus nous a donné plusieurs autres avertissements concernant nos paroles, que votre oui soit oui et votre non, non, car tout ce qui va au-delà vient du mauvais de l'esprit de Satan en vous. Matt 5, 37 remarqué. Jésus nous a dit que nos paroles viennent de l'esprit de Satan, nos cœurs doivent être purifiés du péché jusqu'à ce que notre cœur et notre âme soient purifiés, et alors nos paroles viennent de l'esprit de Dieu. Mais moi, je vous dis que pour toute parole vaine non édifiante que les hommes auront dite, ils en rendront compte au jour du jugement. Car c'est par tes paroles que tu seras justifié, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Matt 12, 36, 37 Chaque parole que nous avons prononcée dans notre vie, qui n'a pas d'abord été entendue de Dieu nous disant quoi dire, fera partie de notre jugement après la mort. Dieu juge chaque homme non seulement par ses paroles, mais aussi par ses actions ou œuvres. Chaque homme signifie aucune exception. Chaque homme, même ceux qui croient en Jésus, et je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu, et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Apoc 20, 12, 13 Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matt 16, 27 Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon vos œuvres. Apoc 2, 23 Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve l'esprit, pour rendre à chacun selon ses voies, et selon le fruit de ses actions œuvres. Jer 17 dit Ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ? Pro 24, 12 Le jour de colère et de révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses actions. Rome 2, 5 Si l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour du Seigneur la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera et mettra à l'essai l'œuvre de chacun, de quelle nature elle est encore 3, 13, car chacun sera salé par le feu. Marc 9, 49 Peut-être commencez-vous à voir combien le péché est grave, et la nécessité qu'il soit détruit par l'Esprit de Dieu. À moins que nous ne devenions libres du péché dans cette vie, nous serons exclus du ciel lorsque nous mourrons. Mais ces péchés ne vous rendent pas indignes de l'aide de Dieu par la grâce pour les éliminer. Jésus est venu pour détruire le péché et les œuvres du mal en nous, si nous allons à lui. C'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté en nous, afin de détruire en nous les œuvres le péché du diable. 1 Jean 3, 8 Nous allons à lui, dans un humble silence, pour nous asseoir et attendre de façon persistante et patiente ses instructions. Par sa grâce, l'Esprit nous rachètera de toute iniquité et nous purifiera pour faire de nous un peuple qui lui appartienne en propre, apte à être dirigé par lui pour accomplir des œuvres qui montrent au monde la puissance et l'amour de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut, est apparue à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre sobrement, justement et pieux. Tite 2, 11, 14 Si nous allons à lui et l'attendons, l'Esprit nous montrera même les péchés dans notre cœur dont nous n'avions même pas conscience. Et une épée te transpercera toi-même l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Luc 2, 35 Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve l'esprit. Jer 17 dit Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Apoc 2, 23 Lui Jésus qui sonde les cœurs. Rome 8, 27 Tu as mis devant toi nos iniquités, ce que nous avons caché à la lumière de ta face. Psa 90 8 Mais toutes choses les péchés reprises sont rendues manifestes révélées par la lumière, car ce qui rend manifeste est lumière. F 5, 13 Ne jugez donc de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en lumière les choses cachées des ténèbres et manifestera les intentions des cœurs. 1 Cor 4, 5 Car la parole de Dieu est vivante, vivante, efficace, active, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, et jugeant les pensées et les intentions du cœur. Heb 4, 12 Tu as fait ces choses, et je me suis tu, tu as pensé que j'étais tout à fait semblable à toi. Mais je te reprendrai et j'exposerai mes accusations de tes péchés devant tes yeux dans l'ordre. Psa 50, 21 Si nous allons à lui et l'attendons, l'Esprit circoncira et mortifiera notre cœur de tout mal pécheur. En lui vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main, par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision accomplie par Christ. Col 2, 11 Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté en nous, afin de détruire en nous les œuvres le péché du diable. 1 Jean 3, 8 Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, afin que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. 2 30 Si, mais est juif celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, par l'esprit. Rome 2, 29 Car si vous vivez selon la chair la nature pécheresse, vous mourrez, Mais si par l'Esprit, vous faites mourir, mettez à mort les œuvres du corps, vous vivrez. Rome 8, 13. Faites donc mourir, mettez à mort ce qui, dans vos membres, relève de la vie terrestre, la fornication, l'impureté, les passions déréglées, les mauvais désirs de la chair et la convoitise qui est l'idolâtrie. Col 3, 5. Dépouillez-vous de votre ancienne nature qui gouvernait votre conduite et qui se corrompt par des convoitises et des désirs issus de l'illusion. F 4, 22. Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Romains 16, 20. De la parole du Seigneur au-dedans, nous allons à lui, et il fait pleuvoir sur nous son aide, cet exercice de Dieu purifie bien ceux qui le pratiquent. Néanmoins, le fondement de Dieu demeure ferme, portant cette inscription, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et que quiconque prononce le nom de Christ se dit chrétien se détourne de l'iniquité, illégalité, péché. 2 Timothée 2, 19. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Jean 8, 34. Si vous êtes esclave du péché, Jésus ne peut pas être votre Seigneur. Jésus l'a dit lui-même, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Luc 16, 13. Le salaire du péché, c'est la mort. Rome 6, 23. Jean a dit, quiconque est son frère a commis un meurtre dans son cœur. 1 Jean 3, 15. Paul a dit, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice. Rome 6, 16. Paul a dit, réveillez-vous pour la justice, et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, je vous dis cela à votre honte. 1 Cor 15, 34. Jésus a dit, ou bien rendez l'arbre bon, et son fruit bon, ou bien rendez l'arbre mauvais, et son fruit mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Matt 12, 33. De la parole du Seigneur au-dedans, un arbre qui est sain est un bon arbre. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matt 3 dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, quiétude et confiance assurée pour toujours, la patience y compris la longanimité, la constance et la persévérance, la bonté y compris la moralité et l'intégrité, la bienveillance, la foi, la douceur y compris la mansuétude et l'humilité, et la maîtrise de soi, domination des appétits sensuels, des passions et des désirs. Contre ces choses, il n'y a pas de loi. Gal 5, 22-23 Quand vous portez, produisez ou faites paraître beaucoup de fruits, mon Père est honoré et glorifié, et vous montrez que vous êtes vraiment mes disciples, véritables disciples. Jean 15, 8 Paul a dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair, la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs convoitises et affections. Gal 5, 24 Les faux prophètes vous disent que vos péchés, passés, présents et futurs, sont excusés parce que vous croyez en Jésus. Au sujet des faux prophètes, Jude a dit, car certains hommes se sont glissés parmi vous à votre insu, depuis longtemps destinés à ce jugement, des hommes impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et en débauche, en une licence pour l'immoralité, et qui renient et désavouent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Jude 1, 4. Le sens de la grâce a été transféré, par les sectes protestantes du christianisme, de la vérité à savoir que par la repentance, l'Esprit de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre sobrement, justement et pieusement dans le présent siècle, se purifiant un peuple qui lui appartient en propre, zélé pour les bonnes œuvres et transféré aux mensonges tordus, que la grâce excuse tous les péchés passés, présents et futurs chez les croyants, excusant ainsi les croyants à vivre comme bon leur. La fausse Église a fait du sang de Jésus une excuse au mal, par conséquent, ils ont fait de son sang une chose profane, ainsi, ils foulent aux pieds le Fils de Dieu et montrent du mépris pour la grâce. Hébreux 10, 29. Ce n'est pas ce que l'on dit qui fait de Jésus leur Seigneur ou Maître, mais leurs actes. En prétendant que la grâce excuse le fait de continuer à pécher, ces hommes ont renié et désavoué Jésus comme leur Seigneur et Maître, lui qui a dit « Repentez-vous ou périssez, et ne péchez plus ». De la parole du Seigneur au-dedans, « Souviens-toi, toute personne qui pèche le renie comme Seigneur et Maître. Es-tu d'accord avec ceux qui, dans leur arrogance, ont déclaré que Dieu excuse le mal chez les croyants? Ce n'est pas juste, mais ils s'en moquent. Ils ont pris la Bible et en ont fait une chose profane, utilisée pour justifier leur immersion dans le péché. Personne dans la chrétienté n'avertit les gens au sujet du péché, ils ne voudraient aucune loi. La nouvelle loi est devenue l'injustice. Le christianisme n'a aucune idée de ce que je suis ni de ce que je défends. Pierre a aussi identifié les faux dirigeants chrétiens de son temps, car, en proférant de grands discours enflés de vanité, ils séduisent par les convoitises de la chair et de grandes débauches ceux qui échappaient à peine à ceux qui vivent dans l'erreur. Tout en leur promettant la liberté, ces faux docteurs sont eux-mêmes esclaves de la corruption péché, immoralité, car chacun est esclave de ce qu'il a vaincu. 2 Pierre 2, 18-19 Les faux docteurs promettent la liberté de continuer dans le péché, mais Jésus a dit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Jean 8, 34 Le salaire du péché, c'est la mort. Rome 6, 23 Non seulement, le christianisme a fait de la grâce une licence pour l'immoralité, Mais le christianisme a rendu la conscience de ses croyants insensibles comme au fer rouge, les laissant indifférents au péché et au mal. Il existe une liberté pour un Fils de Dieu crucifié, libre de tout péché, marchant dans l'amour et accomplissant la loi. Mais tant que vous n'êtes pas libre de tout péché, vous êtes exposé à être exclu du ciel lorsque vous mourrez. Pour en savoir plus sur ce sujet, voir « Vraie grâce vs. fausse grâce ». Au sujet des faux prophètes, Pierre a dit, « Comme notre bien-aimé frère Paul aussi, selon la sagesse qui lui a été donnée, vous a écrit, comme il le fait dans toutes ses lettres, y parlant de ces choses. Il s'y trouve des points difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes et mal affermies tordent des tournes pour leur propre ruine, comme elles le font aussi des autres Écritures. Vous donc, bien-aimés, sachant cela d'avance, prenez garde de peur qu'entraînés par l'égarement des méchants, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » 2 Pierre 3, 15-17. Les méchants vous disent que Dieu passera sur vos péchés parce que vous croyez en Jésus, les méchants vous diront que vous êtes juste tout en péchant encore. Celui qui dit aux méchants à ceux qui pêchent encore, « Tu es juste », les peuples le maudiront, les nations l'auront en horreur. Prov 24, 24 au sujet des faux prophètes, Pierre a dit, « Et surtout ceux qui se livrent à la chair dans des convoitises corrompues et méprisent l'autorité. Et ils recevront le salaire de l'injustice, comme ceux qui trouvent du plaisir à faire des festins en plein jour. » 2 Pierre 2, distrait au sujet des faux prophètes, Pierre a dit, « Ce sont des sources sans eau, des nuées poussées par la tempête, auxquelles l'obscurité la plus profonde est réservée. Car en proférant de grands discours enflés de vanité, ils séduisent par les convoitises de la chair et de grandes débauches ceux qui échappaient à peine à ceux qui vivent dans l'erreur. Tout en leur promettant la liberté de continuer leur style de vie pécheur, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption péché, immoralité, car chacun est esclave de ce qu'il a vaincu. » 2 Pierre 2, 17-19 au sujet des faux chrétiens, Paul a dit, « Frères, soyez mes imitateurs et regardez ceux qui marchent selon le modèle que nous vous avons donné, afin de nous avoir pour exemple. Car beaucoup marchent, je vous en ai souvent parlé, et je vous en parle maintenant en pleurant, comme des ennemis de la croix du Christ. Leur fin, c'est la perdition, leur Dieu, c'est leur ventre désir, convoitise, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Phil 3, 17-19 concernant la doctrine du faux prophète de salut instantané par la grâce de la parole du Seigneur au-dedans, ce sont des mensonges tordus et pernicieux, un défaut fatal qui détourne le juste. Les faux prophètes vous disent que personne ne peut devenir sans péché dans cette vie, et pourtant la Bible, qu'ils prétendent être leur autorité, contredit totalement leur enseignement. Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 31-32 du péché, il ne parle pas de la Bible, elle n'a même été imprimée qu'en 1456. Il parle de la parole que vous entendez sa voix. La Bible ne peut pas vous rendre libre en l'étudiant, mais si vous allez à Jésus, écoutez sa voix et obéissez, il peut vous rendre libre. Jésus a dit, « Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36 du péché, « Ainsi donc, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Rome 6, 18 « Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit récompense la sainteté, et pour fin la vie éternelle. » Rome 6, 22 « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui a dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui a dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. 1 Jean 2, 13, 14 « Lui qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité action illégale, péché et de se purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour les bonnes œuvres. » Tit 2, 14 « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté en nous, afin de détruire en nous les œuvres le péché du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car sa semence le Christ demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » 1 Jean 3, 8-9 « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais Dieu protège celui qui l'a engendré, et le malin ne le touche pas. » 1 Jean 5, 18 « Au sujet des faux prophètes qui enseignent que vous ne pouvez pas devenir libre du péché dans cette vie, la parole du Seigneur au-dedans a dit, « Ceux qui prêchent contre la perfection manquent d'une foi sincère. » Les dirigeants du christianisme sont des chiens aveugles, muets, ignorants, prétendant tout savoir, ils ne savent rien, prétendant tout savoir, ils vivent leur vie comme des insensés. Il n'y a aucun espoir, il n'y a aucune direction, autre que étudier les Écritures. Ces gens sont loin de moi, vivant dans le péché et enseignant aux autres l'inévitabilité du péché jusqu'à la mort. L'Évangile de Jésus promet la délivrance de l'esclavage du péché, le royaume de Dieu dès ici-bas, et l'union avec Dieu. Pour réaliser les promesses de la grâce de Dieu, vous devez le chercher, ce que Jésus nous a dit de faire notre première priorité dans la vie. Matthieu 6, 33. Pour le chercher, il nous a dit de venir à lui. Il a dit que s'asseoir à ses pieds et l'écouter était la bonne part, la seule chose nécessaire, et ce qui ne sera pas ôté. Ainsi, nous restons assis dans un silence humble en écoutant sa voix et ses paroles, et en guettant ses révélations. Quand nous entendons ses commandements, nous lui obéissons. La Bible appelle cela attendre Dieu. Attendre Dieu, c'est s'asseoir avec persévérance dans un silence humble, écouter sa voix et ses paroles, guetter ses révélations, entendre ses commandements, puis lui obéir. C'est par cette attente que nous recevons les promesses de l'Évangile, y compris le salut du péché par grâce, au moyen de la foi. À ceux qui l'attendent avec persévérance et patience, il apparaîtra une seconde fois, non pour porter le péché, mais pour apporter le salut complet. Hébreux 9, 28 « Et ayant été rendu parfait, il Jésus est devenu l'auteur et la source du salut éternel pour tous ceux qui l'écoutent et lui obéissent. » Hébreux 5, 9 « En attendant Dieu, nous recevons les enseignements de la grâce, les convictions de la grâce et l'éradication du péché par la grâce, aboutissant à notre salut par la grâce, le salut étant la délivrance de tous les péchés. » Il existe une page web détaillée décrivant comment recevoir la grâce de Dieu, qui purifie le cœur et l'âme, voire comment recevoir la puissance transformatrice de Dieu. Le péché qui mène à la mort examiné. Jean a dit, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, il demandera, et Dieu lui donnera la vie pour un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Je ne dis pas qu'il faut prier à ce sujet. » 1 Jean 5, 16 Analysons l'Écriture pour comprendre le péché qui mène à la mort. Il y a deux étapes dans la perfection et la pureté par la grâce du Christ. 1 Être relevé jusqu'à la perfection d'Adam et Ève au paradis, tout en demeurant capable de succomber à la tentation. Et de naître de nouveau et être élevé jusqu'à l'union avec le Christ Jésus, une perfection éternelle, incapable de retomber dans le péché ou la tentation. La première étape de la perfection se produit après que vous avez crucifié votre nature pécheresse et reçu le fruit de l'Esprit. C'est là que vous apprenez à rester continuellement vigilant contre la tentation. Après avoir atteint cette première étape de la perfection, si nous succombons à la tentation, à moins de désobéir volontairement, nous pouvons encore choisir de nous repentir tandis que nous marchons dans la lumière, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Cependant, une fois arrivés à cette première étape de perfection et de pureté, si nous désobéissons volontairement au Seigneur, alors nous sommes perdus, c'est le péché qui mène à la mort. Puisque, dans cette première étape de perfection, vous entrez au paradis et êtes en communion avec le Père et le Fils, vous avez certainement la connaissance de la vérité, dont Hébreux 10, 26-29, dit qu'elle aboutit à l'impossibilité de toute repentance ultérieure pour le péché volontaire. Mais cela ne s'applique qu'après la pureté, après avoir regardé Jésus en face, ce qui est la connaissance de la gloire de Dieu, qui est la vérité. Car Dieu, qui a commandé à la lumière de briller hors des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4 « Si dans le passé, après avoir été sauvé, j'ai stupidement commis quelques péchés graves, j'ai demandé s'il y avait encore de l'espoir pour moi. Ces paroles exactes furent, « Tant que tu ne m'auras pas regardé en face, et que tu ne seras pas ensuite retourné au péché, tu peux revenir à moi. » Je n'avais même pas commencé le chemin vers la pureté. Et j'ajoute, voir son visage en rêve n'est même pas comparable au fait de voir son visage apparaître dans ton cœur, dans une gloire toujours croissante, ce qui n'arrive qu'après avoir été crucifié, libéré de tout péché, être mort à la loi par la loi, et être pur la première étape de la perfection. Pour regarder Jésus en face, il faut être pur, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8 Cette pureté a lieu dans la première étape de la perfection. Tant que vous n'êtes pas purifié, et que vous n'avez pas reçu la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ Jésus, qui est la vérité, puis que vous ne désobéissez pas volontairement au commandement du Seigneur qui vous guide, vos péchés peuvent être purifiés et pardonnés. Ainsi, vous avez encore l'espoir de la pureté. La grâce transformatrice vous est encore suelikda, sueliko, suelikes, suelektes, sueliko, suelikpa, ibl. Vous avez encore la chance d'atteindre le salut. De la parole du Seigneur au-dedans, ne dit même pas « je n'ai pas une autre chance ». Pire encore, c'est de le croire et d'abandonner. Peu importe combien de fois tu échoues, peu importe à quel point tu es dégoûté de toi-même, le Seigneur n'a pas renoncé à toi. Exprime simplement ton chagrin, regrette ta faiblesse, décide de faire mieux, et retourne aussitôt à l'attente de lui avec l'espoir de changer, confiant dans sa merveilleuse miséricorde. Je ne laisserai pas ma miséricorde se refroidir, ma miséricorde n'a pas de limite. La miséricorde et la bonté de Dieu subsistent à jamais. Je peux témoigner des changements merveilleux et prodigieux qu'il a opérés en moi par sa grâce depuis mes péchés. et ces péchés ont été commis après que j'avais soi-disant été sauvé. J'entends souvent des personnes très déprimées qui ont quitté leur secte déficient il y a des années, ont péché, et se sentent maintenant indignes de rechercher à nouveau. Ce n'est pas vrai, ces gens n'avaient jamais été libérés du péché. Ils avaient seulement été sauvés et avaient étudié la Bible. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a jamais eu. Être vraiment sauvé, c'est par la puissance de la grâce avoir le cœur changé, nettoyé, purifié, de sorte qu'il contrôle vos paroles et vos actes. Ils n'avaient jamais reçu la grâce de Dieu qui transforme et purifie. Leur seule défense contre le péché était la volonté qui échoue. S'ils retournent aux pratiques de leur secte déficient, ils échoueront seulement à nouveau, car sans aide divine, ils ne peuvent pas marcher sans tomber. Pendant que vous êtes en train d'être purifié, vous n'êtes évidemment pas pur, donc vous péchez encore, même si vous pensez avoir été sauvé. Sauvé de quoi ? Être vraiment sauvé, c'est être délivré du péché. Sur ce site, il y a de nombreux exemples de premiers Quakers, qui avaient d'abord fait partie d'une ou de plusieurs sectes déficients sans la formule pour avoir pouvoir sur le péché. Après avoir lu la Bible, été baptisés et soi-disant été sauvés, ils sont ensuite retournés au péché, en sachant qu'ils péchaient. Puis, après avoir entendu la véritable espérance avec la voix de la croix, ils ont vaincu le péché par la puissance de Dieu, pour devenir purs, saints, justes, justifiés, et entrer dans le royaume de Dieu. Trois des nombreux exemples sur ce site web sont James Pornell, Stephen Crisp et Mary Pennington, tous disponibles pour votre lecture, cliquez sur leur nom. Si, après avoir été touché par Dieu par une expérience de réveil, quelqu'un continue ensuite à pécher, il engourdira peu à peu sa conscience jusqu'à ne plus pouvoir être éveillé pour s'éloigner du péché. Et, dans ce processus, il finit par crucifier de nouveau le Fils de Dieu. Leurs cœurs deviennent si endurcis et insensibles dans leur péché qu'ils ne peuvent plus être atteints par la voix de Dieu au-dedans, ni par la voix de l'homme au-dehors. Lecteur bienveillant, si tu as lu jusqu'ici avec un intérêt sincère, ton cœur ne s'est pas endurci au point de ne plus pouvoir entendre, et tu peux encore revenir au Seigneur pour recevoir sa grâce transformatrice. Permettez-moi d'illustrer pourquoi les fausses sectes sont si mortelles. J'ai été agnostique jusqu'à l'âge de 36 ans. Mon code moral était très humaniste, croyant que tant que je ne faisais pas de mal aux autres, tout allait bien. Ma vie était pleine de péchés jusqu'à ce que je réalise qu'il y avait un Dieu qui observait tout ce que je faisais. Je me suis immédiatement réformée et j'ai cessé de très nombreuses pratiques mauvaises, sachant que j'étais sous son regard en tout temps. Comparez maintenant cela à un croyant en Jésus, à qui sa secte dit que tous ses péchés sont excusés et payés par Jésus, ou dans le cas des sectes catholiques et orthodoxes, leur confession et leur sacrifice eucharistique, qui est censé expier le péché, pratiqué jusqu'à leur mort, sans jamais la moindre indication sur la manière de cesser de pécher. Ainsi, un homme de la chrétienté est facilement conduit de péché en péché, et ce faisant, il engourdit sa conscience et la lumière du Christ en lui, jusqu'à ce qu'enfin, il ait crucifié de nouveau le Fils de Dieu. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont été rendus participants du Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, s'ils tombent, soient renouvelés encore pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hebb 6:4-6. Ainsi la chrétienté est devenue les synagogues de Satan, le terrain d'abattage de la semence de Dieu, et la demeure des démons, remplis d'oiseaux impurs. Comme William Penn l'a dit dans No Cross, No Crown, ils l'embrassent comme Judas, l'appellent maître comme Judas, le vendent pour continuer leurs convoitises et les plaisirs du monde, puis le traînent dans la boue et la saleté tandis qu'ils continuent à pécher. Le Seigneur décrit cette répétition de péché sacrement, péché de nouveau, sacrement de nouveau, comme une conflagration, un grand incendie ou une grande destruction, de la parole du Seigneur au-dedans. Sacrement, conflagration, continuez à faire ce que vous n'êtes pas censé faire, puis ensuite être accablé de chagrin à propos de ce que vous avez fait. Église, être éternellement désolé de ce que vous avez fait, tout en faisant demi-tour et en le refaisant, cela s'auto-alimente. Grande est la destruction de ces lieux de culte. Le milieu chrétien lui-même est conforme à la mort. Tant qu'ils n'ont pas tué leur conscience par des péchés répétés, ils peuvent encore entendre et peut-être être motivés à renouveler leurs efforts pour exercer leur foi. Mais pour chaque acte de désobéissance qu'ils ont commis, après avoir été convaincus d'un péché particulier dans la lumière, ils doivent d'abord accomplir le même nombre d'actes d'obéissance avant que ce péché soit retiré de leur cœur. De la parole du Seigneur au-dedans, quand la lumière te montre quelque chose à faire, chaque acte de désobéissance doit être emporté par un acte d'obéissance. Jean a dit « Toute injustice est péché, et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. » 1 Jean 5, 17 Le Seigneur est plein de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pétrois 9 Tout bien considéré dans l'Apocalypse, Jésus a dit « Réveille-toi et veille, et affermis ce qui reste, ce qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rêve 3:2 Comme Paul prêchait, je proclamais qu'il devait se repentir, se tourner vers Dieu et faire des œuvres conformes à la repentance. Acte 26:20 Ainsi, lecteur bienveillant, tu sais maintenant combien Dieu est désireux de te purifier de tout péché pendant que tu es sur la terre, faisant la paix avec lui dans ta vie présente. Puisses-tu répondre par tes meilleurs efforts possibles, car si tu échoues, Dieu nous avertit ainsi, dans ton impureté il y a abomination, parce que je t'aurai purifié et tu n'as pas été purifié, tu ne seras pas purifié de ton impureté jusqu'à ce que ma fureur contre toi soit assouvie. Ésaïe 24:13 Si nous échouons à apprendre à vivre sobrement, justement et pieusement dans le monde présent, nous rencontrerons sa fureur, mais accompagnés de compassion. Remarque, si tu ne parviens pas à être purifié dans cette vie, la voie facile, tu seras purifié dans la prochaine vie, la voie difficile. William Penn a écrit au sujet du repentir forcé dans la prochaine vie, s'adressant à ceux qui se disent chrétiens, mais n'ont jamais porté la croix et vivent encore dans le péché. Ô vous, prétendus disciples de ce Jésus crucifié. Examinez-vous, éprouvez-vous, ne vous connaissez-vous pas vous-même, si lui n'habite pas, s'il ne règne pas en vous, que vous êtes éprouvé. 2 Cor 13:5 Ne vous y trompez pas car on ne se moque pas de Dieu. Ce que vous semez, vous le récolterez. Galates 6:7-8 À la fin, avec des repentirs forcés astérisque ce que vous semez, vous le récolterez au jour de Dieu. Je vous supplie de m'écouter et de vous souvenir que le salut de Dieu vous a été offert et proposé. Astérisque Penn parle des repentirs forcés dans la prochaine vie pour ceux qui ne se repentent pas par la croix dans cette vie. Dieu ne force notre repentance qu'indirectement. Il nous place dans les ténèbres, sans son influence restrictive, de sorte que nous nous adonnons aux désirs de notre cœur jusqu'au point où nous en sommes rassasiés et où ils deviennent lourds, désagréables et finalement horriblement oppressants, si horribles que nous choisissons désespérément de nous en repentir. Puisses-tu réussir éminemment dans ta recherche de Dieu pour jouir de la liberté vis-à-vis du péché et vivre au paradis, tout en marchant encore sur la terre. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui mène à l'union avec Dieu dans son royaume.